Yes.
La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet, ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. La radio n'a pas toujours été aussi libre qu'aujourd'hui. Dans cette série, nous avons évoqué l'invention de la radio et un bout de son histoire. Il est temps maintenant de parler de la libération des ondes. Après la guerre, vers 1950, plus question de laisser la radio à la voix de n'importe qui. L'État prend donc le monopole, et ce jusqu'en 1980, soit pendant près de 30 ans. Fini la popularité des années 30 avec des radios privées et régionales libres. La radio n'avait plus qu'une seule manière de penser, celle de l'État. Cela dit, entre 1950 et 1980, on avait quand même du choix, et ce grâce aux radios pirates. Wow.
Radio pirate.
Radio.
Tout le monde s'éclate.
Radio
pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
Les radios pirates sont apparues vers les années 60, surtout au nord de l'Europe. Des radios associatives s'opposant au monopole de l'État sur la radiodiffusion, et pour ce faire, elles émettent au-delà des frontières, dans les eaux internationales, ce qui leur permettait d'échapper, en théorie, aux réglementations de l'époque. En France, c'est en 1969 qu'on voit apparaître les premières radios pirates. Parmi les premières, on peut nommer Radio Campus, qui est située à Lille. Et c'est en 1978 que, dans toutes les régions de France, on verra se multiplier plusieurs émissions FM clandestines.
On peut changer la fréquence en une demi-heure. C'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crac, ils sont sur 92 mégas, bon, en une demi-heure, pince coupante, tournevis et tout, et puis on change de fréquence.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs.
Toutes ces radios pirates sont évidemment inspirées par la pionnière station maritime Radio Caroline qui, émettant en AM, donc sur la bande onde moyenne, a totalement arrosé de musique pop toute l'Europe du Nord.
You're in line with Caroline on 199, your all-day music station. It's now exactly 9 o'clock, BULOVA, Bulova Watch Time, Bulova. Caroline Continental.
Hello and welcome to this very first Caroline Continental program. Every week at this time, we'll be sending greetings and music, especially to the many Radio Caroline listeners in Europe.
Durant cette même période, des déploiements policiers sont menés contre les émetteurs pirates français. Nous sommes alors sous la présidence de Giscard d'Estaing, les émetteurs tombent, les fréquences pirates se font totalement brouiller. S'ensuit alors une désapprobation générale et par conséquent une multiplication des stations. Entre 1978 et 1982, c'est une véritable guérilla des ondes qui est menée par plusieurs centaines de stations. Certaines sont d'ailleurs créées autour de luttes spécifiques. On peut prendre par exemple la radio Lorraine Cœur d'Acier, qui est créée par la CGT de Longwy pour protester contre la fermeture d'usines. La CFDT, elle, en parallèle, a créé la radio SOS Emploi. Les luttes prennent alors la parole et proclament la liberté d'expression face au monopole des médias par l'État. Puis la lutte pour les radios libres s'intensifie. Quelques radios comme Radio Verte, Radio Ivre, Radio Ici et Maintenant et quelques autres décident même de créer l'Association pour la Libération des Ondes, autrement appelée ALO. L'association fait alors réaliser ou adapter des émetteurs FM bon marché et puissants par des techniciens, multiplie les contacts internationaux avec les radios légalisées d'Italie et les pirates anglaises. Une rencontre internationale des radios libres est organisée à Longwy, rassemblant radios militantes et stations commerciales. Félix Gattari, militant d'extrême gauche et célèbre psychanalyste français, se sépare de l'ALO pour créer une fédération. Cette fédération, c'est la Fédération nationale des radios libres, autrement appelée FNRL. La Fédération nationale des radios libres est résolument hostile à tout financement publicitaire. Au même moment, l'opposition socialiste soutient le combat des radios libres pour la liberté d'expression, sans pour autant promettre la fin du monopole. Néanmoins, la création par des militants socialistes de Radio Riposte et l'inculpation de François Mitterrand et de Laurent Fabius créent un précédent. C'est alors l'élection de Mitterrand en 1981 qui fera espérer à une libération des médias. Mais finalement, le brouillage ne cesse pas tout de suite. Certaines stations en sont encore victimes. Évidemment, les socialistes n'aiment pas tellement que l'opposition prenne la parole. Radio Solidarité ou Radio Courtoisie sont donc toujours dans la ligne de mire du brouillage. Mais ce ne sont pas les seuls. RFM continue également de se faire brouiller après 81. En plus, les premières propositions de libéralisation imposent aux stations indépendantes des puissances d'émission limitées à quelques dizaines de watts seulement et l'interdiction de toute ressource publicitaire.
Alors les quatre conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s'agir de radios associatives disposant et présentant des programmes originaux. Deuxième condition, elles ne doivent pas constituer de réseau et respecter les lois sur la presse, qui n'ont pas toujours d'ailleurs été respectées dans la presse écrite ces dernières années. Troisième condition, la portée théorique maximum ne doit pas dépasser un rayon de 5 km autour du point d'émission. Et enfin, la quatrième condition, qui est d'ailleurs la plus importante pour ceux qui ont déjà fait de la radio dans les agglomérations, dans les villes, eh bien, c'est l'impossibilité de financer ces radios-là à l'aide de la publicité.
La maîtrise impossible des fréquences se traduit rapidement par des nuisances entre radios. Soit à cause d'émetteurs de médiocre qualité, soit pour des réglages mal faits ou encore d'une course à la puissance. À partir de 1982, la bande FM devient l'objet de convoitises de groupes commerciaux et le gouvernement se doit de mettre de l'ordre et d'attribuer rationnellement les fréquences de la bande FM. C'est alors qu'une haute autorité de la communication audiovisuelle est créée.
La Haute Autorité de l'audiovisuel et sa présidente, Michèle Cotta, ont présenté les nouveaux présidents des sociétés de radio et de télévision. Leur mot d'ordre, priorité à l'harmonisation et à l'unité du service public, c'est ce qu'explique la présidente de la Haute Autorité.
Il était urgent, je crois, d'affirmer dès aujourd'hui deux priorités. Premièrement, les chaînes ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Elles ne sont pas rivales et si jamais elles l'étaient, c'était parce qu'elles doivent l'être dans le cœur du public. Deuxième priorité, l'audiovisuel français ne va pas aussi mal qu'on le dit. Il y a tous les talents, toutes les bonnes volontés, toutes les possibilités du monde. Notre enjeu est simple, les révéler tous aux téléspectateurs et aux auditeurs français et les révéler peut-être à eux-mêmes.
En 1983, elle décide l'interdiction et la saisie de certaines radios libres, en particulier celles pouvant être d'inspiration plus ou moins libertaire, comme par exemple Carbone 14.
Ah là, voilà la belle émission. T'as perdu le moral, t'as perdu une jambe, ta femme t'a quitté, t'as perdu la guerre. Écoute Carbone 14, oh oh, la radio des chemards.
Le Carbone 14, elle est assez dure à croire parce que c'est incroyable. Il n'y a jamais eu de radio qui soit créée comme ça, vraiment. C'est-à-dire, pour recruter l'équipe d'animation, déjà, c'est une petite annonce qui a été publiée dans Libération il y a presque un an. Et c'est les gens qui ont répondu à cette petite annonce, qui étaient assez fous donc, pour croire qu'on pouvait faire de la radio et faire la radio qu'on voulait en répondant à une annonce, qui ont effectivement fait Carbone 14.
Ah, oh, j'ai peur.
Je flippe.
Oh, l'enfer.
Ah, je meurs.
Oh, je suis seule.
Pas en quest.
Oh, non.
Oh, je te...
Oh, je suis laide.
Non, je me shoot.
Oh, 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 oh.
545-31-38, vos plus gros fantasmes au 545-31-38, ceux qui, quand vous êtes tout seul, vous font vos... Et puis vous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Bon, 545-31-38, allô.
Du sexe. Du sang.
De conneries.
C'est la musique de hardcore, l'amour en direct. Une émission qui a eu lieu le 20 février 82. C'était la première fois donc qu'il y avait en France et peut-être dans le monde aussi sur une radio libre une émission où deux personnes faisaient l'amour dans un studio de radio sur un matelas avec une prise de son et puis un animateur qui commentait au fur et à mesure ce qui se passait. Et on entendait les gens qui faisaient l'amour, donc, le 20 février.
Suite à ça, la plupart des stations FM indépendantes historiques disparaissent et la plupart des stations « élues » entre guillemets entrent de plein pied dans une concurrence commerciale. Cela dit, la haute autorité reste bancale. Ses règles appliquées sont souvent changeantes et imposent des sanctions discriminatoires entre radios pour les mêmes faits et souvent à cause du flou juridique qui plane encore sur les droits des radios. Il faut donc se battre et attendre pour obtenir des droits de diffusion, mais ça, on en parlera une autre fois.